et les bords, 14 heures.
Départ pour Milan, 10h47, Amsterdam, 11h22, Istanbul, 12h15.
La planète bleue, départ immédiat.
We have touched as only atmospheres touch. We had touched as only atmospheres touch. We had touched as only atmospheres touch.
va falloir combien de temps pour que les océans comptent plus de plastique que de poissons? 15 ans? 20 ans? 30 ans? À votre avis, l'humanité est-elle à classer parmi les espèces intelligentes ou parmi les espèces affligeantes? La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Aujourd'hui, nous allons feuilleter un livre dingue, Paroles d'animaux, qui fait le point sur l'état des toutes dernières recherches en matière de langages animaux. C'est passionnant. L'éthologie est en train de connaître une véritable révolution. Allons-nous bientôt converser avec certaines espèces animales? Je vais vous parler de guides qui recensent des sites insolites, des lieux inattendus hors des sentiers battus tout autour du monde, des destinations souvent absentes des guides traditionnels, des sites bizarres, mystérieux, surprenants. Ces bouquins donnent envie de passer des heures rien qu'à les feuilleter. Que va devenir la Terre? Et que va devenir l'humanité? Leur futur est-il lié? Pourquoi le regard que les chercheurs portent sur la fin possible de l'humanité a-t-il récemment évolué? Pourquoi certains d'entre eux envisagent-ils la fin de notre monde, non pas dans un futur indéfini comme les auteurs de science-fiction, mais de notre vivant dans 20 ans ou 30 ans? À l'occasion de la sortie en DVD d'un film formidable et rare, The Ride, nous allons évoquer Wooden Knee, un site doublement historique pour les Amérindiens, les Native Americans, au sud du Dakota du Sud. Enfin, je vais vous parler d'un pavé, une histoire des civilisations, un travail collectif qui présente les dernières évolutions de l'archéologie grâce aux nouvelles technologies qui modifient les moyens, les méthodologies des chercheurs jusqu'à bouleverser nos connaissances sur l'histoire de l'humanité. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Colombie à New York City, d'Italie à Paris, d'Équateur en Suisse, de Palestine en Norvège, de Pologne au Saskatchewan et du Dakota jusqu'au Minnesota, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
La planète bleue, Yves Blanc.
To get to you. Now give up all my fears for you. What you don't know, what you don't do. Let me what you want me to. What you don't know, what you don't do. Anything but upset you. What you don't know, what you don't do. Feel like I could comfort you. What you don't know, what you don't do. Let me take you by your hand and walk beside you into something good.
Si je refuse?
Vous pouvez refuser que la terre tourne, ça n'y changera pas grand-chose.
Justement, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous me parlez depuis une autre planète.
certains vieux sages en territoire inuit, en Sibérie, en Amazonie aussi, certains chamans affirment que dans la nuit des temps, à l'aube des ébauches du monde, il existait un langage commun entre l'animal et l'homme. Chez les animistes, on le sait depuis des millénaires, nous avons un lien de parenté avec les animaux. Chez les Ojibwés, les Indiens des Grands Lacs canadiens, on raconte qu'il fut un temps où les animaux et les hommes étaient des frères. Ils conversaient au quotidien, solidaires les uns des autres. Puis a déboulé la religion qui est venue hiérarchiser tout ça, qui est venue régenter la vie, plaçant une bonne fois pour toutes l'homme tout en haut de la création, évidemment divine. Les animaux ne parlent pas, donc ils ne pensent pas, donc ils ne ressentent rien. Vous savez où ça nous a conduit. Certaines peuplades, pourtant, au coin de la planète, vous savez, celles qu'on dit primitives, sont restées attentives aux conversations des animaux. Et même en Occident, plusieurs philosophes de toute époque, d'Aristote à Montaigne, ont fustigé l'arrogance de l'anthropocentrisme en s'appuyant sur le langage animal. Les animaux parlent entre eux, et si nous les considérons sans langage, c'est parce que nous sommes incapables de les comprendre. C'est cette même croyance qui a autorisé l'homme blanc à massacrer les Indiens, 200 millions de morts. Mais ceci est une autre histoire, on en reparlera tout à l'heure. Karine Lou Matignon est une spécialiste des relations interespèces, du cerveau des animaux et de leur langage. Elle publie un livre étonnant sur l'état des toutes dernières recherches sur les conversations animales. C'est vraiment passionnant. Les chercheurs ne se demandent plus si les animaux pensent, mais comment ils pensent. L'éthologie est une discipline qui va vraisemblablement connaître une révolution. Allons-nous bientôt converser avec certaines espèces ? Selon certains chercheurs, grâce au big data, on pourrait commencer à comprendre certains animaux, notamment les dauphins, juste là, dans 5 ou 6 ans. Ça va peut-être nous ramener enfin à plus d'humilité. N'oublions jamais que Usain Bolt ne court pas plus vite qu'un chat, et bien moins vite qu'un lapin. Parole d'animaux, écoutez ce qu'ils ont à nous dire. Karine Lou Matignon, édition La Découverte, Arte.
planète bleue.
on parle de plus en plus des « bullshit jobs », selon la formule de David Graeber, anthropologue à la London School of Economics. Les « bullshit jobs », ce sont ces boulots à la con, des emplois qui ne servent à rien, qui n'apportent rien, qui n'ont d'autre utilité que de permettre aux uns de survivre laborieusement, pendant que les autres engrangent encore plus de blé. Les bullshit jobs, c'est pas juste ces petits boulots qui consistent à distribuer des pubs ou ce genre de trucs superflus, c'est aussi certains emplois de bureau où les employés se sentent inutiles, dévalorisés, humiliés, parfois même les cadres, et ça peut vous donner l'envie de tout plaquer. Si vous aussi, vous ressentez parfois cette envie de claquer la porte, de partir à l'aventure, j'ai deux guides pour vous, camarades écouteurs. Deux guides qui recensent des lieux insolites, inattendus, hors des sentiers battus, tout autour du monde. Des destinations qui peuvent élargir la perception du champ des possibles, souvent absente des guides traditionnels. Le premier, l'Atlas Obscura, est un livre splendide qui donne envie de passer des heures à le feuilleter et à rêver à toutes ces destinations étonnantes. Même si vous n'avez pas l'intention de partir, parcourir ce livre vous fera frémir de curiosité et d'envie. D'abord publié aux États-Unis, voici sa seconde édition en langue française. Un livre qui fait du bien, qui donne des idées juste en le feuilletant. Hyper bien réalisé, ici, tout est réussi. La maquette, le choix du papier, le format, l'icono. Sur les 650 sites bizarres et surprenants recensés, je vous donne 2-3 exemples. Les tours solaires de Sanlúcar, la Mayor, qui alimentent en électricité la ville de Séville, en Andalousie. Deux tours blanches et lisses, en pleine campagne, 115 mètres chacune, l'équivalent de 50 étages, qui reçoivent les rayons scintillants réfléchis par des centaines de miroirs au sol, illuminant sur leur trajet la poussière et la vapeur d'eau. C'est magique. Dans les Balkans, dans les montagnes de Bulgarie, Axon-Lac qui ne ratait pas la gigantesque soucoupe volante en béton, érigée à la gloire du communisme dans les années 70, qui monopolisa 6000 travailleurs pendant 7 ans. Aujourd'hui en friche, on peut visiter son incroyable structure en béton, un périple dans le passé de la science-fiction. Ou encore l'hôtel Ryongyong de Pyongyang en Corée du Nord, en forme de pyramide géante et futuriste dont la construction a été abandonnée en cours de route. Les architectures spatiales de l'Arctique canadien, ou encore le grand trou bleu de Belize en Amérique centrale. Vous pouvez voir plusieurs de ces sites incroyables sur le mur d'images de la planète bleue. Atlas Obscura, 650 lieux étranges et merveilleux à explorer chez Marabout. Figurez-vous, camarades écouteurs, qu'un autre éditeur a eu la même idée, sans doute inspiré par le succès du premier, et publie un guide très voisin, Les merveilles les plus secrètes du monde, qui recense, lui, 360 sites autour du globe, un tour du monde des destinations les plus fascinantes, les plus extraordinaires, parfois encore méconnues, comme par exemple le centre de recherche sous-marin de Tektit dans les îles Vierges, initié par les Américains à la fin des années 60. Ce guide est lui aussi excitant, à mon avis pas aussi réussi que le premier, mais à un tarif imbattable. Les merveilles les plus secrètes du monde, 360 lieux extraordinaires dont vous ignorez l'existence. Chez Lonely Planet, bonne découverte.
La planète bleue, le chant du sable.
صوتي لن تكتم صوتي إنه الآن وتر وحيد يقاوم كحبل غسيل لا تطاله الريح وإن سدت مساماتي صوتي في زندي وإن قطعت أوصالي صوتي رنيم القلب وإن أسكت نبضه صوتي مرآة روحي وإن استلبت روحي غنائي يصدح في الميادين شمسا لا تنطفئ في الحناجر شمسا لا تنطفئ في الحناجر وتر وحيد وتر وحيد وتر وحيد يقاوم وتر وحيد يقاوم وتر وحيد يقاوم يقاوم وتر وحيد يقاوم كحبل غسيل لا تطاله الريح
Thank you.
Que va devenir la Terre? Que va devenir l'humanité? Pas sûr que leur futur soit lié, d'ailleurs. Si l'humanité semble mal barrée, la planète, elle, s'en sortira, tôt ou tard. La véritable question est, combien d'espèces l'humanité va-t-elle entraîner dans sa disparition? Le regard des chercheurs, leurs analyses, leurs études sur la fin possible de l'humanité ont sensiblement évolué ces derniers temps, et c'est très intéressant d'observer pourquoi et comment. Pendant longtemps, tout s'est passé comme si les scientifiques ne croyaient guère à un déraillement, à un emballement, à un effondrement de notre monde industriel et commercial. Les premiers à avoir changé de regard, à avoir changé d'axe, c'est Donella et Dennis Meadows. C'était le fameux rapport du MIT commandé par le Club de Rome, publié en 1972. Les meilleurs experts de la planète annonçaient déjà qu'une croissance infinie dans un monde fini, à une seule planète, ça n'allait plus pouvoir marcher bien longtemps. L'idée semblait à la portée d'un enfant de 6 ans. Pourtant, qu'est-ce qui a changé en un demi-siècle? Ben oui, pas grand-chose. Les riches continuent à s'en foutre plein les fouilles, à se gaver, à piller les pays du Sud, à exporter leurs déchets au Sud, à l'Est et dans les océans. Les pauvres continuent à tenter de survivre, tant bien que mal. Plutôt mal d'ailleurs, l'écart entre les riches et les pauvres ne cessant de s'élargir. Pendant des décennies, les scientifiques ont semblé refuser d'envisager que l'interaction de l'homme sur la nature était telle, tellement toxique, que l'histoire pouvait tourner court, allait tourner court. Peut-être pas la fin du monde, mais assurément la fin de notre monde. Il aura fallu attendre les années 2010, tout récemment, pour qu'apparaisse enfin une nouvelle discipline, la collapsologie, dont on a évidemment parlé ici, sur la planète bleue. La collapsologie est une nouvelle approche transdisciplinaire qui étudie la notion d'effondrement, non pas au sens du pont Morandi à Gênes, encore que d'un point de vue symbolique on ne soit pas très loin du sujet, mais plutôt au sens des colonies d'abeilles qui disparaissent. Et si l'humanité disparaissait? Et si l'humanité disparaissait, non pas dans le futur, comme le racontent les auteurs de science-fiction, mais de notre vivant, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Il y a quelques années, la question faisait encore sourire. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les chercheurs ont mis le temps, mais ils étudient maintenant très sérieusement la question. Ou, pour le formuler autrement, dans quel délai la planète va-t-elle se débarrasser de l'humanité? Face à cette perspective d'effondrement, vous êtes nombreux, camarades écouteurs, à me poser la question « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-on agir à notre petit niveau ?» La réponse n'est-elle pas plutôt politique? Le capitalisme est-il en mesure de nous éviter le grand effondrement? Vous devinez un peu la réponse, non? Beaucoup de mathématiciens, de physiciens, de biologistes, de climatologues, d'astrophysiciens, rejoints par de nombreux philosophes, ont acquis la quasi-certitude que le processus d'effondrement est déjà entamé. La réponse suggérée par la transition énergétique est-elle adaptée à l'enjeu et à l'urgence? Bien sûr que non. Pour les collapsologues, le développement durable, la croissance verte et la transition écologique ne sont que des petits mirages, des réponses pas du tout à la mesure de l'effondrement qui se profile avant même l'horizon et qui sera vraisemblablement précédé par un terrible choc social. La montée de l'extrême droite, au coin du globe, n'en est-elle pas le prélude?
Electro. Electro.
Right. Robot. Electro.
La question suivante nous est posée par Alain. Il a 9 ans. Alain, quelle est ta question à la commandante Golovkina?
Il est vert?
Il est invisible à l'œil nu. Il est microscopique. Une seule cellule. Je peux te dire pour comparer que ton corps en compte des milliers de milliards.
Il y a un extraterrestre à l'intérieur de moi?
C'est sûrement ce que se dit parfois ton instituteur.
Nous avons une autre question posée par Marie, 8 ans.
Vous ramenez l'extraterrestre bientôt sur Terre?
Non, on le garde avec nous pour l'instant. On va l'étudier en toute sécurité.
Commandant?
L'ISS est la maison la plus chère jamais bâtie. 200 milliards de dollars américains et ce n'est pas fini. Parce qu'on n'arrête pas d'ajouter des pièces. Elle fait le tour de la Terre 16 fois par jour. En 30 ans, un peu plus de 100 personnes sont venues vivre ici.
Мне так нравится la planète bleue. Такая международная, футуристическая, голубая планета. Этим все сказано.
Wooden Knee est une modeste bourgade dans la réserve de Pine Ridge, au sud du Dakota du Sud. Pour les Amérindiens, les Native Americans, les premiers peuples, ce site est doublement historique. D'abord parce que le 29 décembre 1890, c'est à Wooden Knee qu'eut lieu le dernier massacre de masse d'Indiens par les soldats blancs. Car c'est bien d'un massacre dont il est question, et non, comme de multiples historiens blancs le colportèrent pendant des années, d'une bataille. Entre 200 et 300 Sioux de la tribu Lakota, dont des dizaines de femmes et d'enfants, ainsi que le chef Bigfoot, furent massacrés à bout portant, à la mitrailleuse, par les visages pâles qui les avaient encerclés et préalablement désarmés. Une boucherie qui ne dura pas plus de quelques minutes, la dernière boucherie d'une interminable série qui marqua peut-être la fin du plus grand massacre de l'histoire de cette planète. 83 ans plus tard, le 27 février 1973, exactement au même endroit, 300 Sioux et des sympathisants de la cause indienne manifestent sur ce site symbolique pour la reconnaissance de leurs droits civiques. 2000 agents du FBI sont immédiatement dépêchés sur place, lourdement armés, blindés, hélicos, avions. Ils encerclent les manifestants, on a l'impression que l'histoire se répète. Le siège dure 71 jours, avec échange de coups de feu, deux Indiens tués, un agent fédéral blessé. La police rafle tout le monde, les Indiens et les activistes blancs venus les soutenir. Bilan 1200 arrestations. Un Navarro, vétéran du Vietnam, témoigne « Le calme des gens était stupéfiant, étant donné qu'on nous tirait dessus sans arrêt. Mais ils restaient parce qu'ils avaient une cause à défendre. C'est pour ça qu'on a perdu au Vietnam, parce que la cause était mauvaise. On a fait une guerre de riches pour les riches. À Wounded Knee, on a fait du bon boulot et le moral était bon. On continuait à rigoler malgré tout. »